Philosophie de la matière par le père Philippe Arimon, 10 novembre 1989, deuxième cours.
Il est revenu dans son lieu naturel. Il est au repos maintenant. Il est passé d'un être artificiel à un être qui se meut. Dire qu'on a l'expérience d'un troisième mouvement naturel à travers l'élément air saisi dans le vent. Le mouvement horizontal. Non, parce que il est celui-là, il est mixte. Il n'est pas simple. C'est à cause de ça. Si tu as fait l'expérience de vous envoler, par exemple. Un vent a décorné les bœufs. Alors vous faites l'exemple de vous envoler. Eh bien, c'est ni. Il y a toujours la pesanteur qui joue. Et toujours un sommet. Donc c'est mixte. C'est ni en haut ni en bas. Vous avez dit que finalement, il y avait aucun lieu, le haut et le bas. Oui. Le haut et le bas, liés aux deux éléments extrêmes, la terre et le feu. Pourtant, on constate dans le monde physique le troisième élément, le mouvement circulaire. On ne peut plus rattacher ce mouvement à la quintessence. Ce mouvement circulaire est-il un lieu? Si la fin du monde physique est liée à la matière forme, l'acte cause finale se rattache donc à la matière forme. Peut-on dire cela? Oui, oui, tout à fait. Dans le monde physique, c'est pour ça que c'est si difficile de découvrir la finalité dans le monde physique. Dans le monde physique, la finalité se ramène à une forme dans le mouvement. Et on a la tentation, c'est ce qu'Aristote a fait, de découvrir la finalité dans une cause exemplaire. Vous voyez, l'ordre implique une mesure. La mesure, c'est la cause exemplaire. La cause exemplaire, c'est le ciel, la quintessence. Mais on voit très bien le mouvement par lequel, passant par le point de vue de la cause exemplaire, on a alors quelque chose de parfaitement ordonné. La vision du monde que nous avons, nous, aujourd'hui, au plan philosophique, cette vision ne reposant plus, comme pour Aristote, sur une tradition religieuse qui fait dire que le monde est parfait, qu'il y a une âme du monde, que le monde implique quelque chose d'éternel. N'ayant plus cette vision, le christianisme est venu purifier tout ça, ces traditions religieuses. Quelles sont les traditions religieuses à l'égard, voilà, les traditions religieuses chrétiennes à l'égard du cosmos? Elles sont dans la Genèse. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Cherchez, c'est intéressant. C'est très intéressant. Regardez les premiers chapitres de la Genèse et cherchez le lieu, à la différence de l'univers physique d'Aristote. Qu'est-ce que la révélation chrétienne nous donne comme tradition religieuse sur l'univers? Posez-vous la question. Je vois très bien dans l'Antiquité, dans la Grèce. Qu'est-ce que les traditions religieuses chrétiennes nous donnent sur le cosmos? Pas grand-chose. Il est créé. Il est ordonné. Il est ordonné. Je ne parle plus de quintessence. mais selon les six jours. C'est un ordre. On ne dit pas l'évolution. Dites pas que l'évolution est une tradition chrétienne. Non. Mais on dit que tout est ordonné à l'homme. Oui, ça oui. Que Dieu s'est reposé avant de décréter « Faisons l'homme à notre image ». C'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'il y a eu ce repos de Dieu. Mais on ne dit pas de finalité du monde physique. On dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre dans l'Apocalypse. Que tout ce qui est avant sera passé. Une transmutation. Donc il y a une purification de toutes les traditions religieuses cosmiques. Parce que l'âme du monde, vous savez, c'est une fameuse purification. Tu vois, supprimer l'âme du monde, vous voyez. C'est une fameuse purification. De sorte que je crois que c'est l'ordre de l'univers qui est avant tout révélé. Et que au plan philosophique, c'est l'ordre du monde sur lequel j'insiste. Et je ne dis pas une finalité. Le monde physique a-t-il une finalité? Comme monde physique, sa seule finalité, c'est l'ordre. Et un ordre qui n'est pas absolument parfait, puisqu'il y a le hasard dans cet ordre. Tout ce qui va. Le hasard, c'est quoi? C'est la victoire de la matière sur la forme. Ce sont les monstres. La victoire de la matière sur la forme, c'est le hasard. La potentialité radicale de la matière explique comment il y a un hasard. Alors, pose la question, le mouvement circulaire est-il un lieu? Bon, le mouvement circulaire, vous voyez, est beaucoup moins. Il est intéressant, mais il est très délicat à préciser. Les anciens ont essayé, hein, mais il est beaucoup plus difficile. L'unité du monde aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. Je peux philosophiquement parler. Je peux philosophiquement parler de l'unité du monde comme une conclusion de sagesse, jugement de sagesse. Le monde physique est un et a son unité. Quel est le centre? Je ne peux pas le donner de façon absolue. Il y a des raisons de convenance. Si le monde physique n'a pas de finalité, c'est là où il y a l'être le plus parfait que le monde physique trouve sa finalité. Donc, vous voyez bien, il trouve son centre. Alors, est-ce que ça va contre certaines lois scientifiques? C'est très difficile, ça. Il y a le pour et le contre. Temps, je me souviens, c'était la marotte qu'on faisait. Il y avait un professeur comme ça qui était à Nix et qui avait une marotte. Pour lui, l'expérience de la Terre qui tourne autour du Soleil ne prouve rien. Alors, quand on avait marre de son cours, on disait tourne-t-elle. Et là, il s'arrêtait et puis reprenait pour nous démontrer. La Terre ne tournait pas autour du Soleil. C'est pour lui, c'était sa marotte, c'était vraiment ça sur laquelle elle revenait tout le temps. C'est vrai que philosophiquement parlant, je suis tenté de dire que la Terre est le centre de l'univers. raison de convenance, hein, pas plus. Parce que je pourrais donner une autre convenance. La Terre n'est pas le centre de l'univers. L'homme a été créé sur cette toute petite planète, rien du tout. Lancé comme les autres, pour qu'il comprenne mieux qu'il est un pèlerin. C'est une raison spirituelle. Mais je peux donner aussi une autre raison. La Terre est le centre de l'univers pour nous faire comprendre la dignité de l'homme. Alors entre les deux, mon cœur balance. Il y a deux convenances. C'est pour ça que je ne peux pas le certifier. Quel est le centre de l'univers? On doit se poser la question au plan philosophique. Et je peux dire que philosophiquement, jamais la science pourra le dire. Parce que je suis dedans. Parce que je suis dedans, je ne peux pas. Je ferai un point absolu. Quand deux trains partent en même temps, vous savez. Quand vous regardez le train du voisin et que vous êtes dedans, vous êtes sûr que c'est vous qui partez, vous êtes l'autre. Bah, c'est plus. Vous êtes obligé d'avoir un autre point de repère. Immobile. Le quai. Le sol, le roc. Trois les deux trains, vous savez. Tout le monde physique est en mouvement, la Terre aussi en mouvement, il doit y avoir un centre. Toute figure géométrique a un centre. Il y en a deux. Alors il faut bien qu'il y ait un centre. Tout a été compris avec sagesse. Pourriez-vous revenir sur la notion d'enveloppe, comme le dit Aristote? Pourquoi le corps le plus parfait enveloppe-t-il le corps moins parfait? Parce qu'il est le plus parfait. Le péri et contos, il l'enveloppe, c'est-à-dire, il est celui qui donne au corps inférieur son repos. C'est ça, envelopper. On voit très bien ça. Une mère qui porte son petit enfant. Le petit enfant se met à dormir dans les bras de sa mère. La mère enveloppe le petit enfant. Oui. Les bras sont faits pour envelopper le vivant. On l'enveloppe. Embrasser quelqu'un, c'est l'envelopper. Et quand l'autre est enveloppé, il se repose. Il est confiant. Qu'est-ce que c'est qu'envelopper, hein? Péricontes, ce qui est en autour et qui empêche l'autre de partir. Parce qu'il trouve là son repos. Il trouve là son épanouissement. Il est heureux. Il est épanoui. C'est son lieu. Si l'enveloppe pouvait parler, si la lettre pouvait parler, elle serait heureuse d'être dans une enveloppe. Parce que là, elle est cachée et elle est prête à partir vers le lieu dit. Oui, c'est les deux aspects. Envelopper, c'est caché, mais c'est pas seulement caché. Parce que quand on cache, n'étant pas le lieu, on est une prison. Quand on cache, et qu'on enveloppe pour épanouir, parce que l'autre arrive dans sa fin, alors on est le lieu. Une mère captative, c'est celle qui enveloppe, ne donnant pas le point de vue du lieu. C'est la mère captative. Alors elle enveloppe, elle met en prison. Parce que quand vous êtes dans les griffes d'une mère captative, vous ne pouvez pas quitter. Impossible. Tandis qu'au contraire, quand vous vous reposez dans les bras d'une mère qui vous aime et qui est le lieu, alors c'est votre milieu. Il n'y a que là que je dors bien. Je dis ça pour l'enfant. Et quelquefois, il peut y avoir cette nostalgie d'un lieu, mais la nostalgie du berceau. La nostalgie du lieu du tout petit. Alors, y a-t-il des questions en plus de ça? Oui.
lieu s'explique-t-il par...
Qu'est-ce qu'il y a ?
L'attraction vers le lieu s'explique-t-il par la nature forme immanente aux deux corps, celui qui attire
c'est sûr.
Celui qui est attiré.
Oui, c'est pour ça que je dis c'est les deux. Parce que le corps supérieur, il est supérieur en raison de sa forme. Et il est capable de donner à la forme inférieure son achèvement. Mais ce n'est pas la vraie fin au sens philosophique. Mais c'est une fin embryonnaire, imparfaite. Le peri econtes, c'est très beau de voir ça. La limite immobile de celui qui vous porte. Qui vous enveloppe en vous portant et en vous ennoblissant. Il faut sur la forme immédiatement supérieure. Oui.
Vous nous avez expliqué que le lieu finalisé, ça voulait dire que dans le lieu on trouvait le maximum étalé de la terre, le maximum étalé du feu. Si l'âme est le lieu du corps, est-ce qu'on peut dire que dans l'âme, on trouve le maximum étalé du corps?
Elle est dans l'âme.
Que dans l'âme, on peut trouver le maximum étalé du corps.
Oui. Ah, non. Venez, faites attention. Hein. Parce qu'alors, à ce moment-là, l'âme serait source du corps. Vous voyez ? Ce serait une mesure et cause. Non. Je voulais simplement montrer que pour le vivant, voyez, dans l'ordre physique, c'est vrai. Pour le vivant, il y a quelque chose de nouveau parce qu'on touche à une vraie finalité. La vraie finalité, c'est pas seulement être maxime étalé par rapport à ce qui est inférieur, mais c'est être autre. Vous voyez ? L'âme est autre que le corps. Elle aurait le finalisme. Plus que maxime étalé, oui. C'est très juste. L'analogie, vous voyez, il y a des niveaux d'analogie, et à un moment donné, il y a quelque chose d'autre. Dès que vous êtes avec le vivant, tout de suite, le lieu et la finalité sont différentes. Parce que le vivant a une finalité qui peut être autre que lui. Vous voyez, quand je dis par exemple que la procréation finalise la nature de l'animal, pas l'individu, mais la nature, ça montre que la nature du vivant inférieur n'a pas de fin en lui-même. Il a besoin de se répéter, mais il se répète. Donc, le vrai lieu de l'animal, c'est le lieu immanent, mais qui est quand même autre que son corps vivant, c'est son âme. Bon, alors vous avez à peu près compris ça.
Dans le sommeil, l'âme...
se repose.
L'âme abandonnée.
Oui. Il se remet au cosmos. Oui, c'est vrai.
Il n'est plus finalisé par l'âme. C'est...
Ah, il l'est, parce que substantiellement, l'âme ne le quitte pas. Mais c'est imaginativement. C'est le cadavre. Le cadavre est remis à la terre. C'est très fort. Il est remis au cosmos, au monde physique. Et pas le... Vous ne dites pas quand vous endormez que vous êtes remis là, au cosmos. Je m'endors dans les bras de... Non, on n'est pas remis au cosmos, parce que l'âme demeure forme substantielle du corps. Vous voyez ? Mais il y a la liberté de l'imagination. Je donne les clés à la folle du logis. Ça crée toujours très peur. Et quelquefois, ça fait une angoisse telle que je n'arrive pas à dormir. Donner les clés du logis à la folle. C'est pas drôle du tout. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce que la folle peut avoir une maladie ? C'est pas une maladie de toujours tout brûler. Ça existe. C'est phobie. Et c'est ce qui se passe, hein. Tous les soirs, quand on s'endort, vous remettez les clés à la folle du logis. Pensez ça ce soir, pas trop, hein. Parce que vous n'arriverez plus à dormir. Mais si vous n'arrivez plus à dormir, faites ça et vous dormirez. C'est le truc merveilleux.
Par rapport à l'amitié, et particulièrement dans la Genèse, ils feront un seul corps.
Oui.
Comment comprendre le problème du lieu?
Parce qu'ils ont deux âmes. Ils font un seul corps parce qu'ils ont un seul vouloir. C'est à partir de l'idem belle. Et à partir de l'œuvre commune, de la procréation. La dynamis de l'un et de l'autre s'unissent pour un fruit commun. C'est dans ce sens-là. C'est le fruit commun qui fait un seul corps. C'est l'enfant qui est témoin de l'unité. Et le fruit de l'unité. Mais ce n'est pas ce qui finalise l'individu. Mais c'est une opération fondamentale pour la nature humaine, pour l'espèce humaine. Mais ça ne finalise pas l'individu. Donc c'est bien l'âme individuelle de chacun qui finalise son corps.
Dans la vie communautaire, les lieux communs.
Il n'y a pas d'âme commune. Corona et animovna, on sait très bien que c'est au point de vue divin. C'est le Christ et Marie. Mais il n'y a pas d'âme commune. Mais, alors les lieux communs, les lieux de la vie commune, c'est très métaphorique. C'est intéressant de regarder ça. Notez toujours quand on parle du lieu. C'est très intéressant de faire cette petite enquête. Et on se ramènerait toujours à ça. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer maintenant au temps. Ah, non, avant. Avant. Quelle différence y a-t-il entre le lieu et l'espace? Vous savez bien, Kant, la catégorie espace, il ne dit pas la catégorie lieu. Cherchez dans les catégories de Kant, vous n'avez pas la catégorie lieu. Oui.
C'est Hegel qui réhabilite le lieu.
Qu'est-ce qu'il y a?
Hegel réhabilite le lieu.
Hegel réhabilite le lieu, mais Kant le supprime. Mais puisque Hegel est beaucoup plus proche d'Aristote.
C'est la synthèse de l'espace et du temps.
Oui. Le lieu synthèse de l'espace et du temps. Attendez. Moi, je fais ici une synthèse. Dans un langage de philosophie réaliste. Qu'est-ce que c'est que l'espace? Kant forme a priori de toutes nos perceptions. Toutes nos perceptions sont dans l'espace. Oui, psychologique. C'est vrai que je suis dans un espace, l'espace vital, quoi. Au jeu du coude. Celui qui est à côté de moi, vous savez, quand on est trop serré dans le métro, au jeu du coude. On va promener la lettre. Un peu d'espace à respirer. L'espace, qu'est-ce que c'est que l'espace? Vous avez la définition de Kant de l'espace? J'ai oublié de la regarder tout à l'heure. Mais elle n'est pas fameuse. C'est tout simplement, je crois, une condition sine qua non de toutes nos perceptions, de toutes nos connaissances. Toutes nos connaissances sont spatiales. Sont inscrites dans l'espace. Alors voyez, ce qui est très curieux, l'espace, c'est quand même une projection sur la réalité physique de notre monde intérieur. Condition sine qua non de toute perception. Condition sine qua non de toutes nos connaissances imaginatives. Toujours, l'espace est là présent. projette. Et le lieu disparaît et l'espace prend sa place. Parce que si j'ai une philosophie du lieu, l'espace n'a plus besoin d'exister. Qu'est l'espace pour vous ? L'espace, c'est l'intervalle qui existe entre moi et l'autre qui prend ma place, ou l'autre qui m'empêche de grossir, quoi, de prendre toute la place. C'est ça. Gardez dans une forêt, il faut un espace suffisant pour les arbres. Quand ils sont trop proches, il y a une rivalité. Et la rivalité devient quelque chose de terrible. Vous voyez, la rivalité vient de cette notion. Tu prends ma place. C'est exactement ça. Vous devenez jaloux quand l'autre prend votre place. Et on voit quelqu'un subitement qui tourne toujours autour de quelqu'un d'autre. Or, j'avais commencé le premier, le carrousel, et je tournais toujours autour. Puis lui est venu comme ça, et il a pris la place. Je suis jaloux. Sur l'espace, c'est l'imagination, l'espace. C'est réel, c'est quantitatif. C'est la quantité, il n'y a pas de vide. C'est l'air qui m'enveloppe. Et puis c'est les distances. Je parlerai de distance, je parlerai de grosseur, d'étendue. Je ne parle pas d'espace. Buxier est à telle distance de Paris. Telle distance. Espace qui sépare Buxier de Paris. Vous le mesurez. La route à telle largeur. L'espace vital. Faites attention à un endroit. La route devient très étroite. On peut à peine se croiser. Et donc ralentissez. Question d'espace. C'est une question de largeur. Est-ce que deux véhicules peuvent se croiser ? Donc, l'espace existe, mais ne remplace pas le lieu. L'espace existe comme ce qui va en quelque sorte être la quantité qui unit deux corps, ou qui écarte deux corps. Ce sera mené à la quantité. La quantité, oui.
Est-ce que vous voyez que c'est pas plutôt une relation ?
C'est la quantité avec la relation, par rapport à un autre, mais c'est la quantité. C'est le divisible. Mais c'est pas une relation. Parce que vous diriez que c'est le fondement, la quantité. On ne croit pas qu'on puisse dire ça. L'extension est reliée à la quantité. Et par l'extension, c'est l'espace. On emploie très peu le terme espace en philosophie. On emploie la juxtaposition, l'extériorité, le divisible, tout ça explique l'espace.
Aristote a parlé d'intervalle.
Quoi ?
Aristote a...
Intervalle. Mais intervalle, c'est la distance entre deux corps. Est-ce que l'intervalle est une relation ? C'est le domaine de la quantité, c'est parce que je suis un être quantitatif, que je peux ou toucher l'autre, ou être à distance. Voilà. Que la relation intervienne, parce que c'est relatif. L'espace est plus ou moins grand. Mais c'est par la grandeur. Parce que vous le mesurez. Alors là, la relation arrive. Mais l'espace, comme tel, je crois, est lié à la quantité. Au divisible. Et à la juxtaposition. Mais il n'y aurait pas d'espace s'il n'y avait pas de juxtaposition. Dans un tas de briques. Si vous pouvez pas, si vous n'étiez pas localisé dans tel endroit, mais il n'y aurait pas de séparation à l'égard d'un autre. il n'y a plus d'espace dans le monde spirituel. Dans le spirituel, il n'y a plus d'espace. C'est pour ça qu'il n'y a plus de jalousie. Parce qu'on ne prend jamais la place de l'autre. Soyez plus spirituel et la jalousie tombe. Ça, c'est sûr. Tu vois, un coup d'aile. Et on garde toutes les jalousies comme des petites fourmis qui se meurent, qui se mordent mutuellement. Parce que justement, on est au-dessus, au plan spirituel. Bon, vous voyez, alors, Kant fait une catégorie, toujours des conditions sine qua non, de connaissance. C'est toujours ces catégories, a priori, oui.
Est-ce qu'on peut le ranger dans les sensibles communs?
Oui, c'est la grandeur. On verra la grandeur. Oui. Dans les sensibles communs, il y a la grandeur et le nombre. Et l'espace, c'est la grandeur. Une grandeur qui sépare deux corps. Plus ou moins grande. Bon. Maintenant, je peux regarder le temps. C'est plus intéressant. Le temps, c'est une notion extrêmement intéressante. Très difficile. Je crois qu'on doit regarder de près. Vous voyez, dans ce chapitre, Aristote étudie aussi la question du vide. Et je crois que ça ne s'oppose. Le vide, il y a... Là, ce serait peut-être, voyez, le vide, l'espace, l'imagination, on projette le vide. Un espace sans rien, c'est le vide. Sans rien. Dès qu'il y a quelque chose, c'est plus le vide. Et c'est vrai, ça. Point de vue physionomie, point de vue regard qu'on a. Quand il n'y a rien, le désert, il n'y a rien. Une fuite infinie. Alors, nous allons regarder la question du temps. C'est le chapitre 10. Dans le livre 4, le chapitre 10. 217b29. 217b29. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos d'Aristote. Ce que c'est que l'instant présent. Après ce qui précède, il nous faut aborder l'étude du temps. Donc le périchronos, chronos, hein, chronos, il ne faut pas l'oublier, le périchronos au sujet du temps. Il convient d'abord de poser les difficultés sur ce
sujet. Vous voyez, toujours la même chose. Hein. On monte les difficultés, les apories. Les apories, les difficultés. Il faut d'abord poser les difficultés. C'est la topique historique. Tous ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui en ont parlé, ceux qui disent... Alors on s'aperçoit que c'est très divers. On s'aperçoit que c'est extrêmement difficile de définir parce qu'on est devant des gens intelligents qui ont dit des choses tout à fait différentes les uns des autres. Donc il faut choisir. Il convient d'abord de poser les difficultés à son sujet et d'examiner dans une argumentation ésotérique s'il faut le placer parmi les êtres ou parmi les non-êtres, puis d'étudier sa nature. Le temps existe-t-il ? Toujours. Première question. Est-ce qu'il existe ? Le lieu existe-t-il ? On a dit oui, le lieu existe. Mais le temps, est-ce que vous le mettez dans un sac ? Est-ce que vous le mettez dans une enveloppe ? Le temps. Mais vous le mettez dans une petite machine qu'on appelle une montre. Un réveil, matin, je mets le temps dedans, et je demande au réveil d'être prophétique. Et il réalise la prophétie tous les matins. Puisqu'il prévoit que d'abord, il n'existe absolument pas. On n'a qu'une existence imparfaite et obscure. Donc il n'a qu'une existence imparfaite et obscure. C'est la première chose, c'est dire non, il n'existe pas. Ou des holos, il n'existe absolument pas. Il ne peut pas exister. On peut le supposer d'après ce qui suit. Alors, voici la grande antithèse. Pour une part, il a été et n'est plus. Pour l'autre, il va être et n'est pas encore. C'est là ce dont se compose le et le temps infini et le temps indéfiniment périodique cyclique. Or, ce qui est composé de non-être semble ne pouvoir pas participer à la substance. Oui, le mot participer, metekein ou zian. Mais Aristote cite là quelque chose qui n'est pas lui, hein, parce que pour lui le temps existe. C'est un prédicament. Alors, vous voyez, première objection, et c'est vrai, c'est l'objection psychologique la plus forte. Je vous parle maintenant, mais dès que j'ai fini ma phrase, le début de la phrase n'est plus. Où est-ce que c'est la journée d'hier ? Où est-ce qu'elle est ? Elle n'est plus. Et demain ? C'est pas encore. C'est dans votre imagination demain. Demain. Merveilleux, samedi, extraordinaire. Vendredi, dur, dur, dur. Et ce qui s'est passé il y a 10 ans, qu'est-ce que c'est ? Quand vous verrez Dieu, l'éternité, est-ce que vous verrez tout le déroulement du temps ? Est-ce que vous assisterez à la création ? Qui a eu lieu dans le temps ? Est-ce que vous pourrez, en voyant Dieu, faire l'appareil, on retourne, et on reprend ce qui était là, puis on reverra tout ça. Et tous les jours, on assistera à la création. Un spectacle, dites oui. Et puis chaque jour, on voudra voir cette petite bête particulière, ces animaux qui étaient dans les musées, on les verra vivants, extraordinaires, se mangeant l'un l'autre, avant le péché. Alors saint Augustin dit qu'avant, on dit, mais c'est un spectacle. Oui. Alors est-ce que le temps hier, il est complètement fichu ? Il est du non-être. Il n'existe pas. Il existe dans votre mémoire, mais ça, intentionnellement, mais c'est pas ça du tout, c'est passé. Vous ne pouvez pas le rattraper. Impossible de rattraper. Ça, la chose terrible. On ne peut pas rattraper le temps. Alors on sanglote. À pleurer. Donc on ajoute cette chose terrible que je ne peux pas rattraper le temps. Ça me mène au désespoir, ça. journée complètement fichue. Et dans la mesure où je me le dis, je rends l'autre encore. Donc, vous voyez, la première raison, c'est que le temps se donne à moi. Passé, présent, futur. Or, seul l'instant présent existe. Mais il existe d'une façon telle que je ne peux pas le garder. Ça coule tout le temps, encore beaucoup plus que le mouvement, que l'eau, le pan d'arrêt, ça coule tout le temps. C'est effrayant, tu laisses prendre conscience de ça. C'est terrible. Je n'existe que dans l'instant présent. Je n'existe que dans l'instant présent. Or, ce qui est composé de non-être semble ne pouvoir participer à la substance. En outre, l'existence de toute chose divisible en tant que telle entraîne nécessairement l'existence de toutes ou de quelques-unes de ces parties. Or, les parties du temps sont les unes passées, les autres futures. Aucun n'existe et le temps est pourtant une chose divisible. L'instant n'est pas parti. Le tonun, ouméros, il n'est pas une partie. L'instant n'est pas une partie. Car la partie est une mesure du tout. Et le tout doit être composé de parties. Or, le temps, semble-t-il, n'est pas composé d'instants. En outre, l'instant qui paraît délimiter le passé et le futur, est-ce qu'il subsiste un et identique ou est-il toujours nouveau? L'instant actuel, est-ce qu'il est le même que l'instant qui arrivera tout à l'heure? Quand on frappe pour la fin du cours, c'est un instant très particulier. Mais est-ce qu'il dit terminé? Et puis on prend autre chose. C'est un instant, il est standi. Ce n'est pas facile à voir, dit Aristote. En effet, s'il est toujours différent, comme aucune partie d'une succession temporelle ne coexiste avec aucune autre, sauf pour les parties qui sont l'une enveloppante, l'autre enveloppée, comme un temps plus court par un temps plus long, et comme ce qui est actuel et comme ce qui actuellement n'est pas, mais a été auparavant, doit forcément avoir été détruit à un moment. De même aussi, les instants ne coexistent pas les uns avec les autres, et celui qui précède sera forcément toujours détruit. Maintenant, détruit en lui-même, impossible, parce qu'alors il est. Mais être détruit, en un autre sens, en un autre instant, l'instant qui précède ne le peut pas. Donc, vous voyez, voilà l'instant. Si vous avez le temps, lisez ce qu'Aristote dit sur le temps. Ça vaut la peine parce que c'est difficile. Le lieu n'est pas commode, mais c'est encore plus difficile de comprendre exactement ce que c'est que le temps. Et ça vaut la peine. Puisque c'est par l'instant que vous rejoignez l'éternité.